Nous allons tout de suite ouvrir la deuxième partie de cette conférence de presse, la session questions-réponses. Je vous demande, et à Goma et à Kinshasa, de mettre vos téléphones sous silence ou en veilleuse. Et nous commençons par Kinshasa. Et beaucoup de mains aujourd'hui, la salle est comble. Nous allons prendre une question peut-être sur la gauche. On a l'habitude de commencer par la droite. Bon, on va commencer par la dame à côté ici. Allez-y, présentez-vous et puis une question.
Merci, c'est Marthe pour l'agence France Presse. À défaut d'avoir les représentants spéciaux, je pose ma question à Charles, à M. Bambara. Hier, les mouvements citoyens lutte pour les changements, Lucha, a publié un communiqué dans lequel il appelle les secrétaires généraux à remplacer immédiatement, selon les termes utilisés, les M. Sidikou. Et la Lucha accuse M. Sidikou d'incompétence, de complaisance, de négligence. Alors, comment vous réagissez au niveau de la MONUSCO par rapport à cet appel?
Merci pour la question. Ce que nous pouvons dire, c'est que nous n'avons pas de commentaire à faire sur cette déclaration de la Lucha. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies ici en RDC, tout comme la MONUSCO, ont des tâches et des objectifs définis dans le cadre de la résolution 2348. Et ces tâches et ces objectifs nous tiennent vraiment occupés. Et nous allons mettre, nous, au niveau de la MONUSCO, tous les moyens à notre disposition pour que cette atteinte, non seulement du Conseil de sécurité des Nations Unies, mais de la communauté internationale, puisse être satisfaite. Nous y travaillons. Le représentant spécial y travaille ardemment. Toute la MONUSCO l'appuie dans ce travail, qui est un travail, comme vous le savez, assez délicat, assez difficile, mais il est engagé. Je peux vous le confirmer, au cours des différentes conférences de presse ici, nous avons dit tout le travail qu'il fait au niveau des bons offices et ailleurs pour atteindre les objectifs que lui assigne donc le Conseil de sécurité. Toute la mission l'appuie dans ce sens et on va continuer à le faire. Voilà un peu ce qu'on peut donc répondre à cette question. Nous allons prendre une question sur la droite. Bon, nous avons la même personne, mais c'est pas grave. Donnez le micro, voilà.
Nikezo Mouzani, africico.ch. Je m'adresse particulièrement au confrère Charles. Il y a un proverbe africain qui dit, lorsque le morceau de viande peut être coupé par les dents ou par les mains, on fait appel au couteau. Nous vous voyons défié par le gouvernement. On vous empêche même de vulgariser la campagne que vous avez lancée, on vous empêche aujourd'hui d'avancer. C'est-à-dire que, bon, vous devez bien comprendre qu'est-ce qu'il faut faire exactement. Est-ce que vous allez prendre le couteau ou bien c'est fini, vous allez vous dire, vous allez courber les chines, c'est fini.
Bon, je ne connaissais pas ce proverbe, mais merci de nous l'apprendre. ce que je peux dire, c'est que je vois un peu à quoi vous faites allusion, mais l'activité justement à laquelle vous faites allusion portait sur l'explication, effectivement, du mandat de la MONUSCO et rien d'autre que ça. En réalité, ce mandat de la MONUSCO, comme vous le savez, est un mandat qui a été discuté, approuvé au Conseil de sécurité des Nations Unies en présence des représentants même du gouvernement congolais. Et donc, depuis la création de la MONUC puis de la MONUSCO, régulièrement, lorsqu'un mandat est décidé par le Conseil, il y a des campagnes de sensibilisation autour de ce mandat. Et donc, nous n'avons fait que ce que nous faisons d'habitude. Et et pour nous, ce qui est important, c'est que les populations congolaises doivent s'approprier donc de ce mandat. Et je crois que l'objectif aussi est partagé d'ailleurs au niveau du gouvernement. Cette campagne avait déjà commencé. C'est vrai, à Kinshasa, ici, on avait déjà fait une première séance, même dans les provinces. L'ensemble des représentants de l'information publique dans les différentes provinces avaient aussi commencé à vulgariser sur ce mandat. Nous allons continuer à travailler en étroite collaboration, bien entendu, avec les autorités gouvernementales ici pour avoir un modus vivendi afin de pouvoir continuer ce travail de sensibilisation autour de la résolution 2348 qui nous est demandé. Par qui? Par le Conseil de sécurité. Comme je dis, ce mandat a été adopté en présence même des représentants de l'État congolais, et c'est un travail qui va continuer dans les prochaines semaines, très certainement. Nous vous tiendrons informés. Nous allons partir donc à Goma. Goma pour deux questions. Nous allons revenir bien sûr à Kinshasa. Il y a beaucoup de mains qui se lèvent, mais donnons la chance aux collègues de Goma. S'il vous plaît, allez-y pour deux questions.
Oui, c'est M. Okito Papi du journal Écho d'Opinion. Ma question se l'adresse à M. Charles. M. Charles, on a vraiment eu beaucoup de résolutions qui ont été signées au niveau des Nations Unies pour sur la République démocratique du Congo, mais c'est sur le plan de son exécution. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Est-ce que c'est les autorités de la MONUSCO au Congo qui n'appliquent pas bien ces résolutions, ou vous êtes bloqué pour bien faire votre travail au niveau de la République démocratique du Congo? Merci.
Rapidement, je vais prendre l'exemple de la précédente résolution, la 2277, que vous connaissez très bien, et qui nous donnait comme objectif éventuellement d'appuyer le processus d'enrôlement des électeurs. Et ce processus d'enrôlement des électeurs, la MONUSCO, comme vous le savez, l'a bien appuyé. Et je peux passer la parole à Florence Marchal qui va vous rappeler quelques données. Je pense que là, l'objectif était atteint, même si le processus d'enrôlement va continuer, comme vous le savez ici à Kinshasa et dans l'ouest du pays. Nous ne disons pas que tout a été accompli. C'est vrai que dans le domaine de la protection des civils, il reste beaucoup à faire, mais vous savez qu'on a beaucoup avancé. On a l'habitude de le dire ici, on n'est plus... au temps du dialogue de Sand City et des concertations de Sand City, etc. On a dépassé cette période. Il y a eu beaucoup d'avancées et c'est vrai que beaucoup reste à faire. Mais par exemple, sur la résolution 2277, nous avons bien accompagné la CENI, le processus d'enrôlement des électeurs. Et quelques rappels peut-être des chiffres, Florence?
Oui, donc la contribution de la MONUSCO, c'était pour faciliter le déploiement, vous vous en souvenez du matériel, avec des opérations qui ont commencé le 28 octobre l'année dernière, qui sont terminées le 19 avril, avec une flotte d'avions et d'hélicoptères qui avait été affrétée spécialement pour l'occasion par la MONUSCO. Il y a plus de 4000 tonnes de matériel qui ont été déployées donc par la MONUSCO, remis à la commission électorale, et donc les générateurs, les kits électoraux, les cartes, etc. Donc plus de 163 vols en avion, 467 rotations d'hélicoptères, et une fois encore, donc il s'agissait d'une demande formulée par la commission électorale, et la MONUSCO a rempli son contrat et a donc suivi la feuille de route qui lui était donnée par la résolution 2277.
Voilà, merci à Florence. Cela montre que, bon, c'est vrai que toutes les résolutions ont des spécificités, mais nous essayons, dans la mesure du possible, au niveau de la mission des Nations Unies ici en RDC, d'accompagner, de mettre en œuvre, de mettre en musique même ces différentes résolutions. Nous revenons, je crois qu'on a passé les deux questions à Goma ou pas encore? Non, Goma, une dernière question.
Merci, c'est Coubert de la FCC. Charles, je suis ouvert de la FTNC. Je voudrais savoir, Charles, votre réaction vis-à-vis de la publication par The New York Times d'une conversation téléphonique d'un député sans que le gouvernement n'en soit informé de l'enquête. C'était les enquêteurs des Nations Unies. Et également, comment réagissez-vous travailler sans le porte-parole Félix Bass, qui a été, semble-t-il, interdit d'accès en RDC?
Bon, on a déjà, peut-être que vous n'étiez pas là au début de la conférence de presse, j'ai rendu publique une petite note d'information à notre niveau, disant que c'était pour des problèmes administratifs et que dans les prochains jours, M. Félix Bass va nous rejoindre. Le travail sans lui, même si nous souhaitons qu'il soit là, continue bien entendu. Depuis plusieurs semaines, quelques mois d'ailleurs, il n'est pas là, mais nous essayons de tenir la trajet haute, comme on dit. Pour la première partie de votre question relative à la publication du New York Times, Vous avez tous les journalistes font ce qu'on appelle du journalisme d'investigation parfois, et c'est vrai que nous avons vu ce rapport ou du moins ce reportage ou cette analyse du New York Times que nous avons lu comme vous. Pour notre part, c'est un travail journalistique. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que par rapport à ce travail et par rapport à l'enquête qui se poursuit, en tout cas de notre côté, le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies, lors justement d'un point de presse à New York hier, a dit que au niveau donc des Nations Unies, l'enquête se poursuit et que les conclusions de cette enquête pourraient être contenues dans un rapport qui sera déposé fin juillet au siège des Nations Unies. Donc nous avons notre propre enquête qui se poursuit, et on va essayer de vous, d'ici fin juillet, lorsque ce rapport sera rendu public, nous allons vous rapporter les grandes lignes de ce rapport-là. Merci pour cette question qui nous permet donc d'éclairer un peu, de donner notre avis sur cette question du New York Times. Nous revenons ici à Kinshasa, peut-être pour prendre une question au fond et puis revenir un peu sur la gauche après. Présentez-vous et puis une question.
Merci beaucoup, M. Bambara. Amen Dimoni pour le compte de Numérica Télévision. M. Bambara, vous dites que M. Félix Bass, vous semblez minimiser un peu le fait, ce sont des problèmes administratifs, tout ça. Mais nous connaissons tous M. Félix Bass ici. Je ne pense pas que ce soit son premier voyage depuis qu'il est ici. Pourquoi vous ne dites pas ce qui s'est passé qu'avant?
Si vous le savez, dites-le nous alors. Enfin, nous, on vous dit ce que nous savons. Et ce que nous savons, c'est ça. Il s'agit d'un problème administratif. Et M. Bass va revenir. Et vous allez le voir. Qui sait, dans les prochaines semaines ici, peut-être qu'il reprendra son flambeau de porte-parole ici et vous le verrez. Nous passons peut-être dans le couloir. Nous avons une question là. Au fond, il y a une dame. On va donner la chance aux dames. Et ensuite, on va revenir à vous. Ne vous en faites pas.
Je suis Patricia Panzo de BioN Télévision. Monsieur Bambara, vous avez dit que les enquêtes se poursuivent. Certes, c'est une très bonne chose. Mais on parle de l'enregistrement sonore du député Clément Kankou. Est-ce qu'on doit dire que cela peut être considéré comme une preuve dans l'assassinat de des experts des Nations Unies? Comment la MONUSCO a-t-elle accueilli cet enregistrement? Et aussi, est-ce que Clément Kankou dit que ce sont des manœuvres pour pouvoir détourner l'attention? Quel est votre point de vue justement par rapport...
Détourner l'attention par rapport à...
Par rapport justement à l'actualité qui règne, on dit qu'on peut lui coller cet enregistrement sonore pour justement détourner l'attention des enquêteurs. Vous, quel est votre point de vue justement par rapport à cela?
Détourner l'attention, c'est pas mes propos. Hein. Cela dit, par rapport à l'enregistrement, effectivement, il doit être versé dans le dossier de l'enquête. Et je crois que le procureur militaire, vous avez entendu, veut prendre en compte cela. Comme j'ai dit, pour au niveau des Nations Unies, ce qui est clair, c'est que une commission d'enquête de l'ONU est en place. Et nous attendons les conclusions de cette commission d'enquête des Nations Unies. Comme l'a dit hier le porte-parole du secrétaire général, M. Stéphane Dujarric, nous attendons les conclusions de cette enquête d'ici fin juillet. Et donc, ce sera clair. Nous, on va essayer, et c'est sûr que cette enquête du siège des Nations Unies va essayer de prendre en compte l'ensemble des indices, et peut-être d'autres, qui sait, par rapport à ce travail qui a déjà été lancé sur le terrain. Nous allons peut-être rester ici pour prendre une autre question. Je vois une main, il y a beaucoup de mains, hein, mais on va repartir. On va prendre une question là, et ensuite je vois d'autres mains. Allez-y, monsieur, présentez-vous et puis une question.
Si la parole, c'est Médard Mouyaya du journal Le Potentiel. Je vais aller un peu rapidement, monsieur Charles.
Une question, hein,
s'il vous plaît. Tout à fait. Je fais d'une pierre deux coups.
Ah non, une question.
C'est parce que à la question qu'on vous a posée sur la conférence débat qui a été empêchée de la réalisation de la édition 23-48, et l'ami a posé la question, il a été un peu réticent et vous n'êtes pas aussi non plus allé en détail, mais vous savez qu'il y a une série de conférences qui ont été interdites, le Ken dans Lubumbashi.
Je peux vous dire tout non, à notre niveau non. À Lubumbashi, il y a eu des séances de sensibilisation sur la résolution.
Non, je voulais parler de Christian Mwando. Dont la conférence a été empêchée par la police, et même Clément Kankou, il semble que sa conférence qui devait être animée serait perturbée, et puis la grande conférence qu'on attendait tous, qui a commencé au siège administratif de la MONUSCO, où on a été autrefois, et qui devait se poursuivre, je crois, dans le milieu universitaire, a été empêchée, et on ne sait pas comment, quelle lecture la MONUSCO fait de tout ça. Mais là, je me passe vite à la situation de Langaza, Charles. Parce que autrefois, vous nous avez donné une grande information ici que la MONUSCO était en train de voir comment renforcer ces éléments dans le Kasaï central, ou enfin dans le Kasaï pour faire face à la situation de sécurité qui est là. Mais j'ai suivi que sur Okapi et sur notre chaîne, le maire, l'actuel maire de Kananga, qui était à Langanza, pour sensibiliser tous les déplacés à regagner la commune. Et là, il y a beaucoup plus de craintes que de foi en lui que si jamais ils peuvent rentrer, il n'y a pas de garantie de sécurité. Alors je ne sais pas, jusqu'à ces jours, qu'est-ce qui a été fait par la MONUSCO pour rassurer les populations du Kasaï central et du Kasaï pour que tous les déplacés puissent revenir à leur maison en toute quiétude.
Pour un journaliste, la question est bien longue. Hein. Il faut apprendre à synthétiser, s'il vous plaît. Mais j'ai dit au début de cette conférence de presse que le représentant spécial du secrétaire général, le représentant spécial adjoint du secrétaire général, M. David Crisley, se rend demain à Kananga. Il sera pendant près de 3 jours, du 25, 26, 27 mai. Il sera là pour faire quoi? Pour faire le point de nos engagements. Pour faire le point des engagements que la MONUSCO a pris de façon concrète vis-à-vis de ces mêmes populations du Kasaï, bien entendu, vis-à-vis aussi de l'opinion publique, parce que nous voulons effectivement, comme je l'ai dit, mettre en œuvre tous les engagements que nous avons pris par rapport justement à la feuille de route que nous a donnée en réalité le Conseil de sécurité. Et nous tenons à vous dire que ce ne sont pas des engagements vains. Le bureau de la MONUSCO à Kananga effectivement a pris des proportions. Nous avons déjà déployé pas mal de personnel civil. Le personnel militaire continue de monter en puissance et vous voyez que sur le terrain, effectivement, même si nous ne pouvons pas être présents partout, nous sommes présents et nos forces sont mobiles sur le terrain et à la fois les forces de police et les forces militaires. Donc, petit à petit, effectivement, le souci sécuritaire, avec bien sûr le travail que fait sur le terrain, et on le rappelle souvent, la première responsabilité, c'est quand même les forces de sécurité nationale. Nous appuyons, nous travaillons sur le terrain et nous allons continuer à le faire vraiment de façon volontaire dans cette province du Kasaï. Nous allons repartir, s'il vous plaît, à Goma. Goma, deux questions et on reviendra ici.
Merci beaucoup, c'est Patrick Félix Abeli pour les sites d'information CAS Info et la chaîne RTVS 1. Je vais revenir un peu sur cet aspect, le Conseil de sécurité qui dénonce les conclusions de l'enquête mené par la RDC dans les meurtres de Zaïda et Charpe. Je vous pose cette question, Charles. Par où est placée l'inquiétude du Conseil de sécurité des Nations Unies?
Bon, je ne sais pas d'où vous sortez ce mot. Hein. Je n'ai pas parlé du Conseil de sécurité qui dénonce. J'ai bien dit simplement que pour notre part, le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies à New York a, au cours d'un point de presse hier, donc dit que il y a une commission d'enquête des Nations Unies qui travaille depuis quelques semaines déjà et qui va déposer donc aux Nations Unies, au siège là-bas, les conclusions de son rapport d'ici la fin du mois de juillet. C'est tout ce que j'ai dit, je n'ai pas parlé de dénonciation. Autre question à Goma.
Merci, c'est Maurice Nduko de Micha Pivot TV. Ma question c'est à Charles-Antoine Bambara. La question des les dossiers Kankou, il a été enregistré. Est-ce que ça veut dire que toutes les autorités congolaises ou les députés sont sur écoute?
Bon, il faut restituer cela dans le contexte. Hein. Vous savez très bien que le New York Times parle de la saisie de ces enregistrements sur l'ordinateur de notre consoeur, donc qui faisait partie du groupe des contacts, du groupe des experts pour la RDC, et c'est tout ce que je sais. Est-ce que c'est la question que vous posez? Je n'ai pas la capacité vraiment de répondre à cette question. Donc posez-la à qui de droit, hein, en tant que journaliste, je suis sûr que vous pouvez taper à la bonne porte. Nous allons prendre une dernière question peut-être à Goma et revenir ensuite ici.
C'est Benjamin Moulouba pour Blessing FM. Ma question s'adresse au responsable de la section de protection de l'enfant de la MONUSCO. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale de l'enfant africain, qui était commémorée le 20 juin 2016, une campagne avait été lancée par la section de protection de l'enfant de la MONUSCO en collaboration avec la FECOFA. C'était pour libérer les enfants des groupes armés. Maintenant, je voulais savoir où en sommes-nous avec les résultats de la campagne depuis son lancement, le mois juin de l'année passée. Est-ce qu'il y a déjà quelques avancées?
Oui, la campagne se poursuit. Vous savez que la semaine passée, nous avons annoncé ici que lors du match Congo-Brazzaville-RDC, la section protection de l'enfant de la MONUSCO justement a relancé, j'allais dire, ce partenariat avec la Fédération congolaise de football. Et donc ça se poursuit. C'est un travail qui a été, c'est vrai, lancé depuis l'année passée. Et effectivement, à cette occasion, il y a une campagne même d'affiches publiques. Et je crois qu'une délégation de Léopards s'était rendue effectivement à Goma. Et cette campagne se poursuit. Nous allons demander à nos collègues du bureau de la section droit de l'enfant, donc, de nous faire un panorama ou un bilan de cette campagne, si on peut parler, peut-être après le match, hein, parce que beaucoup d'autres initiatives sont prévues dans le cadre de cette campagne. Je sais que il y a encore prévu peut-être un déplacement à l'intérieur du pays, Goma, et puis peut-être d'autres villes avec quelques représentants de l'équipe nationale de football. Donc nous allons leur demander à un moment donné de nous faire un peu est-ce quel impact a eu cette campagne avec donc l'équipe nationale de football. Merci pour cette question et nous revenons ici à Kinshasa. Nous allons prendre une question là et une question là. Deux questions ensuite là. Allez-y.
Merci, c'est Sylvie Mboula, Fortuné, pour le compte d'Antenna. Monsieur Bambara, bon nombre d'observateurs pensent que la MONUSCO est en perte de vitesse en RDC. Premièrement, le représentant spécial communique moins, Monsieur Maman Tidiko. Permettez-moi de faire cette petite comparaison, mais Martin Kobler, on le voyait ici, il venait faire le compte-rendu de ses voyages à New York, à l'intérieur du pays, mais le genre est proche à Maman Tidiko de ne pas communiquer. Et ça, c'est un problème pendant qu'au pays, il y a des choses qui se passent. Lui, il est le représentant spécial. Oui, nous avons besoin de vous voir, nous avons besoin de voir Monsieur Baz, mais où est le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC qui ne dit absolument presque rien? Je suis désolée de le dire comme ça, mais on pense que vous êtes en perte de vitesse et vous subissez les événements. Donc vous êtes là, vous constatez seulement, vous constatez finalement. Nous craignons que la résolution 2348 soit vraiment appliquée en RDC. Merci.
Merci pour la question. Nous prenons note de cette remarque et nous allons, avec le bureau du représentant spécial, évoquer la question. Mais nous ne sommes pas là que pour ce que vous dites, constater. Non, beaucoup d'actions se font sur le terrain. Sur le terrain de Ebola, tout de suite nous avons dit l'ensemble des activités, non seulement entreprises par les agents du système des Nations Unies, mais aussi par la MONUSCO. Florence peut revenir dessus sans doute, mais nous avons aussi tout à l'heure parlé de la visite de terrain que va effectuer à partir de demain le représentant spécial adjoint, M. David Grédé, sur le terrain. C'est pourquoi? C'est pour faire avancer la cause de la paix sur le terrain, c'est pour renforcer les mesures de sécurité prises sur le terrain. Vous savez, tout le travail d'accompagnement que nous faisons depuis au niveau de la CENI pour accompagner le processus électoral, pour accompagner, nous l'avons dit tout à l'heure, le processus même d'enrôlement des électeurs. Donc beaucoup d'actions concrètes se font au niveau de la MONUSCO et je crois que il faut relativiser tout cela et à travers non seulement la MONUSCO mais également l'ensemble du système des Nations Unies, quelles que soient les agences que vous prenez sur le plan humanitaire. OCHA est sur le front humanitaire et engage pas mal de choses dans les provinces du Kasaï, comme vous le savez. Sur d'autres plans, l'OMS est là pour la campagne, pour l'épidémie Ebola, etc., etc. Donc nous continuons à travailler, les défis sont énormes dans ce pays, c'est vrai, mais nous ne baissons pas les bras, au contraire, nous sommes déterminés une fois de plus. Les différentes résolutions que nous avons sont très claires, protection des civils, accompagnement par exemple de l'accord du 31 décembre pour les élections en fin d'année, etc. Donc nous sommes engagés et de façon vraiment résolue à les mettre en œuvre. Et voilà, ce travail va continuer dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent. Nous avons une main ici. La semaine passée, je crois que... Décidément, les gens se battent pour le micro aujourd'hui.
Vraiment, c'est le cas de le dire. Roger Marley, le Conga, pour le Paris.cd. Le 29 mai, les casques bleus seront à l'honneur parce que c'est la journée mondiale et l'heure consacrée. Vous avez parlé d'un chiffre, c'est 4500, je ne sais pas, casques bleus tués. J'aimerais savoir quels sont les coins les plus casques bleucides. Je viens de lancer ces mots. Le coin le plus casque bleucide, c'est-à-dire où on tue beaucoup plus les casques bleus.
Bon, je n'ai pas les données. Je préfère ne pas m'engager sur ce terrain pour ne pas vous donner de fausses indications. Mais réellement, c'est des sujets sur lesquels on peut effectivement très rapidement vous faire le point. Parce que nous avons, au niveau de la force ici, nous leur avons demandé par exemple de nous faire, à l'occasion de cette journée des casques bleus du 29 mai, de nous faire le point ici en RDC par exemple, combien de casques bleus ont perdu la vie au cours de cette année. Et donc, à l'occasion de cette journée, on vous donnera le point, mais on va leur demander également aux éléments de la force de nous donner ces indications qu'on pourrait vous passer. Je vois que dans peut-être 60 secondes, nos collègues de Radio Okapi vont nous quitter. Nous remercions bien entendu les auditeurs et auditrices de Radio Okapi. Mais nous allons continuer ici cette conférence de presse avec plusieurs... Mais bon, nous restons là. Hein. Il semble que nous avons un confrère journaliste. Présentez-vous et puis une question.
Merci Christian du journal La Prospérité. Juste de savoir où en est-on avec les bons offices qu'avait entamé M. Maman Sidoukou, parce que depuis lors nous ne voyons aucun rapport de son côté. Où en est-on?
Les bons offices se poursuivent, même si je peux vous dire que M. Maman Sidoukou, il était récemment à New York pour un point, ou du moins aux États-Unis pour un point avec les confrères du siège. Et ensuite, il allait pour une rencontre à Genève avec le secrétaire général des Nations Unies où l'ensemble des représentants spéciaux des différentes missions de paix à travers le monde s'étaient retrouvés autour de Monsieur Antonio Guterres pour discuter et disserter. Malgré la distance, il a continué à s'impliquer ici dans son travail pour faire avancer un peu les différentes discussions, les différentes négociations, les différents pourparlers. Et vous savez que même s'il n'est pas là, ses adjoints sont là, Monsieur Gresley est là, qui a pris bien sûr la relève et ça continue des recherches, donc ses bons offices. Il fera le point et je vous assure qu'il entend bien entendu s'adresser à la presse. Nous l'y avons convié et à son retour, nous verrons quand est-ce que le moment sera idéal, propice pour qu'il vienne s'adresser à la presse et on vous tiendra informé. Nous allons passer peut-être à une... Monsieur, vous avez une question? Allez-y.
Merci, c'est Isaac Mwenza pour le compte de Congo Protect. Congo Yalelo. Ma question est très simple.
Vous travaillez pour combien de journaux, vous?
Ma question est très simple, ça c'est pas important. Ma question est très simple. Nous constatons seulement qu'en 2006, vos relations avec le gouvernement allaient très bien. 2011, ça allait très bien. Comment expliquer qu'en 2016-2017, vos rapports avec le gouvernement congolais deviennent très... Je manque même de termes. Tendus, comment vont vos relations avec le gouvernement congolais aujourd'hui? Merci.
C'est une perception. C'est une perception effectivement, mais je peux vous dire qu'elles ne sont pas aussi tendues que vous l'imaginez. Hein. En réalité, beaucoup de contacts officiels se font, beaucoup de contacts même non officiels se font, c'est vrai, au niveau du représentant spécial, mais au niveau également des chefs de différents départements, divisions de la MONUSCO, le directeur des affaires politiques de la MONUSCO reçoit beaucoup d'hommes politiques, écoute beaucoup d'hommes politiques qui viennent souvent à lui d'ailleurs. Les autres départements également de la MONUSCO sont en contact avec l'ensemble des institutions de l'État ici en RDC, que ce soit à Kinshasa, que ce soit dans les provinces. Il y a pas mal de connexions, il y a pas mal de rencontres, de discussions, d'échanges. Au niveau militaire, par exemple, je peux vous dire que le général de la force, le commandant de la force de la MONUSCO est en contact avec la hiérarchie militaire de FARDC de façon constante. Et globalement, ça se passe bien. C'est vrai qu'il y a toujours quelques difficultés ici et là, mais on ne peut pas dire que globalement, ça ne va pas bien. C'est une perception, comme je l'ai dit, mais je peux vous assurer qu'au-delà de ce que vous voyez, au-delà de ce que vous sentez, il y a pas mal de relations, il y a pas mal d'interconnexions entre les officiels de la MONUSCO et les officiels au niveau du gouvernement. Et nous allons continuer à travailler dessus, bien sûr. Vous savez que c'est une année... qui est difficile au plan, bien sûr, politique, au plan électoral. Le processus est difficile, mais une fois de plus, la MONUSCO reste déterminée. à travailler au regard de la feuille de route que lui a confiée le Conseil de sécurité, et nous espérons que cela va donner les résultats que tout le monde escompte. Voilà, merci pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Très bonne semaine à tous et à toutes.